tout juste 20h sur Radio G. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour revenir sur toute l'actualité sportive locale et internationale. Voilà, ça fait deux semaines que je ne vous ai pas vu. En tout cas, je ne vous ai pas retrouvé et je suis ravi d'être avec vous pour cette émission. À mes côtés, ils ont pris la relève donc la semaine dernière, Faustin et Clément. Je vais commencer par présenter Faustin. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Ça va toujours très bien. Surtout après le week-end que j'ai passé, j'ai joué deux matchs, mon premier avec les Seniors 2.
Oh!
Et voilà, qui s'est fini sur une victoire. J'ai pas beaucoup joué, mais au moins on a gagné. Et après, avec mon équipe.
Le premier pas en senior.
Voilà.
Ça fait quoi d'être un senior?
Ah, ça fait bizarre de jouer contre des darons de 40 ans.
Premières fois pour avoir fait ça au handball, ça fait
ouais,
bizarre.
C'est étonnant.
Franchement, c'est. En fait, c'est un tout autre, pas un tout autre sport, mais un tout autre.
Ouais,
c'est un grand cap, hein, vraiment. Et surtout dans, par exemple, tu vois, je prends moi le hand. C'est pas beaucoup plus physique. Enfin, si, il y a plus de contacts.
Ouais, ouais.
Et franchement, basket, tu sens la différence, quoi.
Ouais, je me suis bien bougé aussi.
C'est impressionnant, ouais.
Ouais, c'est clair.
Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Ça va très bien. Bon, moi, ça a été j'ai quand même fait match nul, 3 partout, mais on aurait pu largement mieux faire parce que on gagnait 3-0 à la mi-temps et.
Oh là là! Ouais. La remontada.
Ouais. Et sachant que je rate l'occasion pour mener 4-2
et finir
le match.
Mais... Oh là 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 là. Que de regrets.
Ouais. Bon, allez, j'ai quand même mis un but, mais ça n'a pas suffi du coup.
Aïe, 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 aïe. Très beau pull du score au passage.
Ouais.
Voilà, c'est pas très radiophonique, mais on voit le diamant. Le diamant du SCO.
Cadeau de mon tonton en plus.
Très très beau. On lui passe le bonjour. Au programme de cette émission, comme je le disais, on va revenir sur toute l'actualité locale et internationale. Il y a pas mal de choses à dire, même si cette semaine ça a été un peu plus calme quand même. Je sais pas si il y a peut-être
dernière,
des trucs que j'ai ratés. C'était plus fourni la semaine dernière, je pense.
Ça va quand même.
Ça va quand même. Au niveau du local, on parlera du SCO. Faustin, tu nous feras les résultats du basket. On parlera également du SCO en bas, des Ducs d'Angers. Niveau international, le football, comme d'habitude, avec les résultats de la Ligue 1, mais aussi les actualités récentes, avec le fameux départ de Kylian Mbappé.
Oh là là.
Et oui, on va en parler, même sur Radio G. Vous en avez marre? Eh ben, on va un petit peu en parler. On va pas trop vous saouler avec ça. Mais voilà, c'était important qu'on place de trois mots parce que c'est un dossier qu'on a un peu suivi quand même sur les derniers mois, sur les dernières années même. Donc
ça commence à nous saouler. Donc
c'est ça, il fallait bien un aboutissement à tout ça. Et donc voilà, peut-être qu'on touchera deux mots là-dessus. Et puis on parlera peut-être un petit peu aussi de la crise qui se passe à l'OM avec le changement d'entraîneur, le troisième de la saison. On verra bien ce qui va se passer.
Ça a changé d'Olympique.
Exactement, la crise. Je vous expliquerai aussi la théorie des deux Olympiques après, c'est très intéressant. Et vous allez voir qu'en ce moment, c'est plus que vérifié. Faustin, tu nous parleras du All-Star Game, de NBA. Et puis après, on reviendra sur ce qui s'est passé aussi au biathlon, avec les très bons résultats des Français et des Françaises. Et puis un petit mot également de marathon, parce qu'il y a deux infos assez importantes. On va commencer donc avec l'actu locale, le SCO. Et oui les gars, on pourra parler, revenir un peu plus rapide, enfin un peu plus longuement sur la situation du SCO. Ce week-end, c'était un match à 15h, donc ce samedi à domicile contre Saint-Etienne. Malheureusement, le match a été perdu 3-0 avec un doublé de Irvine Cardona, l'ancien Brestois qui a marqué en 2 minutes juste avant la mi-temps. Et après, l'heure de jeu, c'est Lefort qui a trompé son propre gardien. Et donc, victoire 3-0 des Stéphanois. À noter du côté d'Angers que El Melali a fait un plutôt très bon match. Et puis, du côté des Cages, c'était le retour de Yaya Fofana. Et oui, il a reçu avant le match son trophée pour avoir remporté la CAN. Voilà, parce qu'apparemment le SCO offre des trophées à ceux qui font des belles performances. On se souvient d'Unai Boufal qui avait reçu un trophée pour avoir fait une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, le retour qui n'a pas été franchement bon pour Yafona. Donc trois buts pris et voilà. Peut-être deux, trois choses à reprocher sur les buts. Je sais pas si vous avez pu voir les buts, les gars, mais voilà, il a pas été impérial sur les trois buts encaissés. Donc, c'est une nouvelle défaite, hein, contre un concurrent direct après celle à Auxerre, 1-0, la semaine d'avant. Le SCO est à 4 points maintenant du leader mais quand même garde 5 points d'avance sur le troisième, Laval. Messieurs, on poursuit quand même parce que on pensait que le mauvais début d'année était un petit peu derrière nous après avoir repris la première place il y a deux semaines, je crois. Hein. On était retombé sur cette première place. Là, il y a quand même aujourd'hui
trois défaites en 5 matchs.
C'est ça, 3 défaites en 5 matchs et en 2024, ça reste compliqué. Hein. On est toujours pas un peu ressorti. Bah, tout simplement, cette année, il y a que 2 victoires contre QRM, 3-2, victoire un peu arrachée, et puis pareil contre Rodez, 2-1, où on a été également mené, et il y a que 3 buts inscrits en 2024. C'est une stat qui fait mal.
Hein? Comment c'est possible?
5 buts marqués en 2024.
Bah, même plus. Ah bah non.
Bah non, parce qu'en
fait, on a perdu 1-0 contre Bastia.
En fait, on a que
1-0 contre Bordeaux.
Nos défaites, on
n'a pas marqué.
On ne marque jamais lors des défaites. Donc on est sur 5 buts seulement en 2024 sur toute compétition confondue. On est sur 7 matchs joués. Il y a eu l'absence de Olizioni. Il faut en parler. Mais c'est vrai qu'au niveau, en tout cas ceux qui sont partis à la CAN, c'était pas forcément sur le volet offensif. Donc voilà, c'est assez compliqué. El Melali s'est mis quand même en avant sur les derniers matchs, mais l'absence de Diony a fait quand même un peu de mal sur quelques matchs. Messieurs, sans parler de crise évidemment, est-ce que ça vient un petit peu compliquer tout ça? Est-ce qu'on recommence à douter? Est-ce que à ce moment-là de la saison, c'est pas un peu pas rédhibitoire, mais un peu compliqué de douter à ce moment-là?
Ouais, je pense que c'est pas le moment de douter. On a quand même enchaîné les grosses équipes, le tableau de Ligue 2.
Bordeaux, donc, notamment.
Bordeaux, Auxerre, Saint-Etienne. Donc, je veux dire, rien de grave, même s'il faut commencer un peu à se remettre en question, peut-être. Mais pas entièrement, parce qu'on a vu des choses bien. Il y a eu aussi le départ de Baoya, qui peut-être a manqué.
Qui apportait son impact en super sub.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y a des raisons pour lesquelles le SCO doit se remettre en jambe, doit recréer une nouvelle dynamique, qui doit arriver quand même assez prochainement si on veut rester notamment dans les deux premières places pour monter direct en Ligue 1. Mais après, je m'inquiète toujours pas sur le fait d'être qualifié pour les play-offs, pour les barrages.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je pense que va falloir se ressaisir quand même assez rapidement, mais comme l'a dit Faustin, ça peut le faire si on arrive à stopper l'hémorragie. Après, on a joué des gros, surtout pour moi le plus gros adversaire là, c'était Saint-Etienne, clairement, parce que ils sont dans une dynamique très bonne et ils l'ont montré en gagnant 3-0. Ouais. Et puis là on joue quand lundi, qui est aussi eux c'est un peu mitigé, ils sont
bien revenus parce qu'ils étaient en bas du classement,
mais là ça recommence à être un peu compliqué.
Ils ont leur nouvel entraîneur Nicolas Seub qui a fait du très bon boulot en arrivant sur le banc de Caen et qui a permis au club de remonter vraiment conséquemment, parce que c'est un club qui était dans les places pour le maintien à un moment donné.
Bon, bah,
et qui aujourd'hui est 7e à 10 points d'Angers.
Ouais, c'est ça. Et puis on est à 8 points des play-offs, donc les play-offs, ça peut toujours le faire. Après, va pas falloir que ça dure une éternité, cette petite crise. Bon, ouais. C'est peut-être un peu fort,
mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une dynamique sur 2024 qui est pas bonne et qu'il va falloir se faire. Parce que, comme je disais, moi je trouve que c'est c'est horrible à dire, mais c'est une période parfaite pour redescendre, en fait, parce que il est pas assez tard, on va dire, pour être serein. Ouais, et on clair. Le disait, on se projetait, quand on se projetait pour terminer dans le haut du classement, c'était en ne perdant pas autant de matchs qu'en 2024. Voilà.
Bah oui, non, on a perdu plus de matchs depuis. Ah bah non, on est à 3 défaites cette saison. Enfin, c'est en 2024. Ouais. Et 4 depuis le début de la saison. Donc ça fait quand même. Faut plus trop perdre, là.
Voilà, maintenir le rythme. C'est urgent même de gagner, de reprendre 3 points. Et ce sera donc peut-être contre Caen. Ce sera lundi en 8, du coup. Non, lundi prochain, tout simplement. Lundi prochain contre Caen. Voilà, c'est à l'extérieur, c'est ça?
C'est
au stade d'Andano.
À 20h40.
Et puis, je sais pas si vous avez suivi, j'imagine que oui. la belle histoire du supporter japonais, Yu, qui a été invité par le Twittos, le streamer Arcunir, qui donc via une initiative qui a été supportée par le club et même par la Ligue 2, a invité ce supporter skoïste du Japon. Et oui, puisque le sko est connu à travers le monde entier et même au Japon, qui d'ailleurs est tombé amoureux du sko grâce à Sofiane Boufal. Et oui, ce qui est quand même assez fort. Et donc voilà, il s'est pris d'amour pour le sko. Et donc Arcunir, qui a notamment, je crois, fait ses études à Angers, et qui a donc invité Yu à venir faire le coup d'envoi du match. Donc c'est une très belle histoire.
C'est quelque chose.
Et surtout dans un match où il y avait beaucoup d'affluence. Ça faisait plaisir. Et malheureusement, en gros, tout était réuni pour avoir une victoire du SCO. On était invaincu à domicile. Depuis le début de la saison,
10 victoires d'affilée en plus.
C'est ça. Et maintenant, bah voilà. donc voilà, il y avait tout qui était réuni pour l'instant. Pourtant, nos amis stéphanois ont déjoué les pronostics. Donc voilà un petit peu pour cette belle histoire quand même sur ce match.
Pour la petite anecdote, bon voilà, ça m'est revenu. Il y a 2 ans, j'étais allé voir le match Saint-Étienne-SCO. Tout était réuni en plus parce que je tirais les pénaux à la mi-temps. Mais non. J'ai raté mon pénalty et le SCO a perdu. Donc bon, Saint-Etienne à Jean-Bouin, ou plutôt maintenant à Raymond Coppa, ça porte pas trop chance.
Et ben attends, c'était à 2 ans, tu dis?
Ouais.
Et ben je crois que Cédric était au match.
Ah ouais.
C'était en Ligue 1 du coup.
Oui, c'était en Ligue 1.
Et ben parce que je me souviens que j'avais des places et que je pouvais pas y aller et que je les ai données à Cédric.
Je l'ai mis au-dessus mon pénalty.
Donc c'est fou que le destin en vrai.
Non mais en vrai. Ouais, bah oui, si ça se trouve il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il est nul celui-là.
Non mais peut-être qu'il était à la buvette, on sait pas. Mais... Et c'est-à-dire que c'est fou de se dire que voilà, il t'a potentiellement vu donc raté ce pénalty. Et que 2 ans plus tard, tu te retrouves dans les studios avec
lui.
Moi, je trouve ça fou. La belle histoire, l'histoire est belle.
Ouais.
Bon, voilà pour le SCO. On va refermer cette page foot locale. Et puis, on va passer au basket. Faustin, avec les résultats de nos 3 équipes du Maine-et-Loire. Est-ce qu'il y a eu des bonnes choses?
Bah, non, pas vraiment. Pas vraiment. Que ni le AB ni Cholet ont joué parce que il y avait la Coupe de France.
Ah oui.
Cholet avait été
Leaders Cup plutôt.
Bah, il y a eu les deux.
Ah, les deux,
ok. Coupe de France puis Leaders Cup. Coupe de France, le AB était déjà éliminé. Et Cholet s'est fait éliminer la semaine dernière contre Strasbourg. J'en ai déjà parlé. Mais après, du coup, il y a eu la Leaders Cup aussi. Donc, les deux clubs, le AB s'était fait éliminer en début de saison, on s'en rappelle. Et Cholet n'était pas qualifié du tout. Au final, c'est le Paris 92, qui a remporté la Leaders Cup. C'est le premier trophée du club, premier trophée pour Nadir Rifi aussi, qui finit MVP de la compétition. Alors qu'il y a 3 ans, il jouait en National 3.
Et Paris, qui a sa nouvelle enceinte, salle, Adidas Arena, qui est très belle.
Qui a été inaugurée par une victoire contre Saint-Quentin, d'ailleurs.
Très beau, très belle anecdote. Bon, allez. La suite
du coup, il y avait l'UFAB qui jouait face à une équipe de Villeneuve d'Ascq très en forme qui ne leur a laissé aucune chance. Lourde défaite donc sur le score de 106-66. C'était aussi le retour de Leïla Lacan dans l'effectif angevin. Ça n'a pas été donc une grande réussite malheureusement. Pour leur prochain match, elles reçoivent Charnay à Jean-Bouin. C'est vendredi. Et un thème américain qui est proposé par le club. Et en plus, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer le concours mis en place Il me semble que les gens ont jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à 21h, jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on vous invite, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de participants. Donc, allez-y, vous avez de grandes chances de gagner les places. Sur Instagram, Twitter et Facebook, il y a les concours. Donc, vous tapez Génération Sport, sans le premier « et ». Voilà. Donc Génération Sport sur les réseaux, vous allez normalement nous trouver. Et puis voilà, vous participez. Il faut donc liker la publication, suivre Génération Sport et commenter en identifiant la personne avec qui on veut aller voir le match. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Allez, on peut faire des petites prolongations s'il y a des petits retardataires, mais voilà, n'hésitez pas si vous nous écoutez à participer pour essayer potentiellement de gagner des places. Donc on vous rappelle, c'est vendredi à 20h face à Charnay. Donc voilà, si vous voulez aller voir ce beau match, eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir qu'on vous confiera ces places-là. Rien d'autre à rajouter, Faustin ?
Non.
Une défaite quand même qui fait mal, hein.
Ouais, gros écart. 40 points d'écart. Ouais. Après, c'était Villeneuve-d'Ascq, premier du championnat. On n'en espérait pas non plus beaucoup de la part des Angevines.
Et moi, je peux me poser une question. On recevra peut-être, sûrement d'ailleurs, normalement même, l'UFAP 49 la semaine prochaine. Est-ce que ça devient pas un peu, pas inquiétant, mais on est à deux victoires. Donc voilà, il faut... Deux victoires et que des défaites en face pour remonter du top 8. On est à deux victoires du top 8 et il va falloir réinvestir
la tendance. Clairement, ça commence à devenir inquiétant parce que les Angevines, elles n'arrivent plus à gagner là, depuis un certain temps.
Ouais.
Elles suivent un peu le AB, j'ai envie de dire.
Ouais.
Qui, les deux équipes font pas une superbe saison. Même si l'UFAB, c'est quand même mieux que le AB, hein, mais elles peuvent s'en sortir. Mais il va falloir aller chercher des grosses victoires contre les concurrents directs.
Elles n'ont pas gagné depuis le 7 janvier contre Saint-Amand. Et puis voilà, c'est 4 défaites de suite. Après, il y a des gros morceaux. Il y a aussi c'est quand même ce gros accro contre Landerneau avec cette défaite à domicile qui a fait très mal aux Angevines, qui aurait pu vraiment leur permettre d'être un peu mieux au classement. Et au final, voilà. Bon après, voilà, il y a Lyon, il y a Basketland, il y a Villeneuve-d'Ascq. On espère contre Charnay, qui fait d'ailleurs une bonne saison, que ça va pouvoir le faire à domicile avec le public. Et donc, pourquoi pas vous, chers auditeurs, dans les travées de Jean-Bouin pour supporter nos Angevines. Voilà. Donc normalement, effectivement, la semaine prochaine, on aura une émission spéciale UFAP 49. On vous en dit plus donc sur nos réseaux sociaux. On va passer maintenant au score en balle avec une nouvelle défaite pour les Angevins, 25 à 27 contre Billière, c'était à domicile. Il s'agit de la sixième défaite d'affilée pour les joueurs d'Issamtej. Il faut savoir qu'Angers n'a plus gagné depuis le 10 novembre 2023. Les Angevins ne sont plus qu'à 2 points de Caen, unique relégable. Donc ça va devenir le maintien commence à devenir une cause très sérieuse, hein. Je vous parlais en début d'année, on parlait des rendez-vous pour les clubs locaux et je vous disais bon, le score en balle, ils seront au milieu de tableau, ça va être tranquille. Et puis en fait, il y a un maintien à aller chercher.
Il l'était quand même au milieu de tableau.
C'est pour ça moi je voyais clairement que le SCO en balle avait les moyens pour jouer ce milieu de tableau et se maintient tranquillement, sachant qu'il n'y avait qu'une seule place relégable.
Ouais.
Et au final, cette place qui se rapproche dangereusement des Angevins. On verra s'ils sont capables de rebondir, notamment dans 2 semaines, contre Cherbourg à domicile. Il s'agit de leur tout prochain match. Et donc, on verra si le SCO en balle peut rebondir d'ici là. On va maintenant parler des Ducs d'Angers. Il y a eu 3 matchs depuis la reprise, après la trêve internationale. Mardi dernier, peut-être que vous aviez eu des premiers buts pendant l'émission.
Oui, on avait eu un but.
Ouais.
Et donc, c'était une victoire 5-3 ce soir-là contre les Gothiques d'Amiens. Vendredi, une nouvelle victoire 2-0 du côté de Marseille. Et puis dimanche, on a terminé la semaine avec cette défaite 3-2 du côté de Briançon pour les Angevins. Donc, une semaine avec 2 victoires et une défaite au classement le SCO. Les Ducs restent, je le fais souvent, c'était les Ducs restent deuxième derrière Rouen, enfin intercalé entre Rouen et Grenoble. Et ce soir, c'est à l'Ice Park que ça se passe avec ce match contre les Boxers de Bordeaux. Messieurs, est-ce que le match te commence normalement à 20h30?
Oui,
ça a pas commencé, Clément?
Non, non, ça a pas commencé.
Eh bien, tu nous tiendras au courant si jamais il y a des buts, je compte sur toi. Ça.
Bah, il y a que les Ducs qui ont remonté un peu le moral du, enfin, notre moral pour les informations locales parce que c'est les seuls qu'on...
Oui, c'est les seuls qu'on gagnait, oui, effectivement. Tous les autres ont perdu, ça devient un peu la crise un peu partout.
Bah, la semaine dernière, c'était déjà le cas, hein.
Eh bah, ben, non, la semaine d'avant aussi.
La semaine dernière, il y avait déjà, mais tout le monde avait perdu aussi.
Cholet avait perdu, Lucas n'avait pas joué.
Et la semaine d'avant, c'était que le Sceau qui avait gagné.
Ouais. Oh bah,
sympa, sympa Génération Sport en ce moment. Bon, bah, on espère que tout ce monde-là va rebondir dans les prochaines journées, hein. On espère qu'il y aura un petit peu de rebondissement et surtout que ceux qui jouent le maintien vont obtenir le maintien, ceux qui jouent démonté obtiendront leur montée. Ou même le titre, notamment pour parler des Ducs. Ouais, voilà pour les actus locales. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter justement sur le local ou non?
C'est bon. Peut-être,
ouais, je t'écoute.
Le club de basket, rival du tien Faustin qui s'est qualifié en Coupe de France face à une N1, donc le club de LMB qui s'est qualifié en Coupe de France face à Paris, à une équipe de Paris.
Voilà. Très bien, ah, intéressant ça. C'est
pas trop
féminine
pour Faustin, mais bon.
Ouais, c'est équipe féminine.
ceux qui jouent à N2,
voilà,
ouais, celles qui jouent à N2
contre Avrier dans la même poule.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et Avrier, je crois, a gagné le match aller.
LMB. Ouais, j'ai gagné à domicile.
Et d'un point. Du coup, donc c'est la Coupe de France, c'est quel stade?
C'était à LMB, du coup. C'était...
Non, le stade, le stade des UTM.
Ah, le stade, j'en sais rien.
Le stade de la compétition, quoi.
Oui, non,
oui, je sais que c'est à celle de la Coudre, effectivement. On leur passe le bonjour à Saint-Léger-Linière.
Ouais.
C'est le nouveau nom.
D'accord.
Il y a Saint-Léger-des-Bois.
Parce qu'il y avait Saint-Jean-de-Linière, du coup.
Alors, il y a Saint-Jean-de-Linière et Saint-Léger-des-Bois. Ouais. Ils sont devenus Saint-Léger-de-Linière,
okay.
Je crois.
Saint-Lambert aussi.
Et on a fait d'ailleurs une émission pour les 40 ans. Regardez juste là, Saint-Léger-de-Linière. Donc c'était en édition place. Et à l'époque où je travaillais à la radio, on avait cherché le nom, le gentilé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est comment on appelle les habitants de la ville. C'était les Légérois, je crois. Et bref, bon, anecdote voilà qui voilà. Mais oui, donc c'est une donc ce sont donc deux communes qui se sont regroupées pour former Saint-Léger-de-Linière, et dans ce club-là, il y a également donc Saint-Lambert, je crois, et une troisième ville. Ouais, Saint-Martin-du-Fouillou peut-être ? Non, je sais pas, c'est peut-être des bêtises.
Ouais, je sais plus c'est quoi la dernière.
Bref,
en tout cas, j'ai joué pas longtemps en plus.
Mais en tout cas, salle de la Coudre, hein, c'est des très belles ambiances, hein, pour avoir couvert des matchs pour Ouest France là-bas, c'est des très très belles ambiances et c'est très souvent plein. Il y a de l'animation, alors que la salle est pas mine.
Les tribunes sont vachement proches du terrain aussi.
Exactement, parce que justement, bah voilà, la salle est pas immense, mais il y a beaucoup beaucoup de monde. Il y a une vraie ferveur dans ce petit club et donc tant mieux si elles ont pu aller loin en Coupe de France. On essaiera de retrouver pendant la pause musicale, hein, où est-ce qu'elles sont au niveau de la Coupe de France.
Eh ben, je rencontre Ambition Girondine au prochain match, mais je crois que c'était le premier tour, mais je suis pas sûr.
Bon, on verra ça, on se renseigne là-dessus, on essaie d'avoir les infos solides et on revient juste après la pause musicale. On va tout de suite s'écouter Werenoi et Damso avec le titre Pyramide.
Couper les ponts, j'suis con. Quand j'y sois proche de tes ennemis, mais faut garder les bons. Je mets l'orgueil de côté, j'te parle bien pour le bise. Et même si j't'aime pas, j'ai passé l'âge. C'est fini le Covid, j'te fais la bise. Mais tu veux la baise. J'ai pris des sous dans la rap, j'en avais déjà à la base. Juste un peu moins. J'te raconte ce qu'on vit, ce qu'on a vu de nos yeux. T'es la victime, j'suis le témoin. J'me repose pas sur la vérité, même si j'sais que j'ai le choix. J'me repose pas sur la pyramide, j'la fais tomber quand y'a les keufs sur le toit. C'est mon dernier feat de l'année, peut-être de ma carrière. Donc je suis un peu ému, je commence à capter que je suis un ancien. Quand elle connaît pas l'aïe maille, ou bien Emile. Doucement, maman, va pas s'en remettre. Ils enferment les blancs, trouver la planque. Tu cherches un homme honnête, coupe lui sa bite et sa langue. OG, rappeur, un peu misandre. Je n'aime pas les hommes, mieux vaut les pendre. Car du Congo, faudra leur prendre l'os.
étrangers, je connais les enjeux à long terme. C'est vrai, tu vas vite, mais c'est moi qui connais le chemin, donc tu la fermes. Champagne à 2000 euros, mais sans maçon, j'ai besoin de claquer. Négro ne fait pas le beau, t'es venu au monde que pour les papiers. On t'a déjà dit qu'elle était pas majeure. Beaucoup de pointeurs, beaucoup de grands rappeurs.
Vécu de criminels, vécu comme dans Many Men. J'suis passé des cassettes, on se critique, j'ai fait la route sans les freins. Vécu de criminels, vécu comme dans Many Men. On dit pas tout ce qu'on fait, mais ce qu'on dit, on a bossé les reins. Grand David dramatique, j'manie l'automatique. J'ai les mains sales, ma gueule, mais le sale, j'te le fais sans les hits. Grand David dramatique, j'manie l'automatique. On fait beaucoup de verre, mais le verre, c'est comme la kryptonite.
Beaucoup de quiches dans le sac, y'a des baffes qui se perdent, car beaucoup de tas heurtés. Tu veux voir les défauts, enlève le parfum à celui qui n'est pas parfait. L'alliance a trop maigri, même si t'es frérot, je rends des cons. Parfois faut jouer le rôle du con pour tromper le con qui croit que t'es con. Me raconte pas ce qu'ils ont dit, mais plutôt pourquoi ils étaient à l'aise quand ils l'ont dit. Raconte pas ce qu'ils t'ont fait sans le contexte, mais plutôt pourquoi ils te l'ont fait. Dans le coffre y'a un mec à rançonner. J'vis comme dans mes emails. Dans le coffre trop de fois fois additionner. J'vis comme dans mes emails.
Vécu de criminel, vécu comme dans mes emails. J'suis passé des cassettes, tout ce que dit, j'ai fait la route sans les freins. Vécu de criminel, vécu comme dans mes emails. On dit pas tout ce qu'on fait, mais ce qu'on dit, on a bossé les reins.
C'était Wey Renoir et Damso pour leur titre Pyramide. Vous êtes toujours donc sur Radio G pour l'émission Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive. Vous nous écoutez évidemment depuis le 101.5 FM ou bien sur Internet avec le site www.radio-g.fr ou bien alors sur les plateformes d'A+. De retour donc avec Faustin et Clément pour parler de l'actualité internationale désormais avec pour commencer le foot. Alors déjà, est-ce qu'on a les infos sur ce qu'on évoquait bah, juste coup, avant, le parcours de Lamboisière?
C'était le huitième et elle se qualifie en quart de finale. Mais comme disait Faustin,
ouais, c'est la c'est Coupe amateur. De France amateur. Ouais. C'est, voilà.
Oh, mais c'est quand même N1.
Enfin, ça reste quelque chose, il faut le dire. Bref, voilà pour les dernières infos locales. On va passer au international avec le foot pour commencer. Avant d'ouvrir le dossier, le gros dossier Mbappé, on va parler un petit peu des résultats de la Ligue 1 du week-end avec la victoire pour commencer de Lyon 1-0 contre Nice. La victoire également de Lille 3-0 contre le Havre. Le PSG qui s'impose à Nantes 2-0. Lorient qui bat Strasbourg 3-1. Toulouse qui parvient à s'imposer donc sur la pelouse de Monaco. Rennes qui enchaîne contre Clermont 3-1. Montpellier qui rebondit contre Metz 3-0. Match nul 1 partout entre Reims et Lens. Et Marseille qui s'incline du côté de Brest 1-0 alors qu'ils menaient qu'ils étaient à 11-10. Voilà un petit peu pour les résultats de la Ligue 1 du week-end. Avant de parler d'Mbappé, à noter donc que la défaite marseillaise en terre bretonne a conduit au licenciement, on va dire, de Gattuso, Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien qui était arrivé en fin d'année dernière, qui repart au bout de quelques matchs et qui est remplacé par, on ne l'avait pas vu venir, l'ancien entraîneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, qui s'était fait qui avait démissionné pendant la compétition avant que la Côte d'Ivoire ne remporte la fameuse CAN. Et donc lui qui semblait quand même au bout physiquement, moralement, après cette humiliante défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale à domicile, eh bien très rapidement il a pu retrouver un club avec l'Olympique de Marseille qui va lui faire confiance jusqu'à la fin de la saison avant de repartir sur un nouveau projet. Rapidement, messieurs, est-ce que Marseille va un petit peu droit dans le mur sur cette saison? Ça devient compliqué là, chez moi les entraîneurs.
On peut pas mettre la musique de clown là. Je sais pas si vous,
non,
vous voyez ce que c'est. Non mais bon, j'ai l'impression que en fait c'est tout ou rien avec Marseille. C'est soit on gagne, tout se passe bien, le stade, les supporters ils sont super, Et si on perd, bah ça y est, le changement d'entraîneur. On parle du PSG où c'est un peu un cycle éternel en Ligue des Champions, mais j'ai l'impression que Marseille c'est un peu près pareil aussi. Enfin, où bah ça se passe bien, tout se passe sur des roulettes. Enfin, par exemple avec Bielsa, bon c'était il y a un petit peu, c'était il y a longtemps, mais tout se passait bien et puis d'un coup ça y est, le Marseille va perdre 3-4 matchs et bah il est licencié. Là, j'ai l'impression.
Enfin, bon, il a démissionné à l'époque.
Oui, il a oui. Enfin, bon, c'est.
Il a démissionné parce que.
Oui, oui. Non, mais je voulais dire, ça se passait bien pourtant avec
Bielsa.
Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et bah là, avec Marseille, bon, ça se passait pas très bien avec Gattuso, mais je veux dire, avant avec Tudor, il y avait pas. C'était pas non plus une catastrophe. Hein, ils étaient quatrième.
Ça se passait bien. Et après, il y a. En fait, j'ai l'impression qu'ils se mettent des bâtons dans les roues
vraiment,
tout seuls. L'année
ça,
dernière, en fait, il y a une autoroute pour aller au moins en finale de Coupe de France. Mm. T'as ce match contre Annecy, où tu domines et machin, et tu arrives à te faire éliminer contre Annecy, qui jouait le maintien en Ligue 2. Alors que t'as pareil en Ligue des Champions, ça se passait bien, même si ça s'est mal terminé cette quatrième place.
Ouais. Alors que
t'as deux doigts de battre Tottenham, et puis d'un coup, tu te retrouves quatrième sans Coupe d'Europe. Donc à chaque fois ça se passe bien et puis ça se passe mal. T'es deuxième toute la saison, tu te fais doubler par Lens. Enfin voilà, c'est
un éternel recommencement, j'ai l'impression aussi.
C'est ça. Et donc ça me permet de développer la théorie des deux Olympiques.
Ah oui, vas-y.
La fameuse théorie, alors elle est assez simple, c'est que quand un Olympique est dans la mouise, l'autre va bien. Ou plutôt l'inverse. Quand il y en a un qui va bien, c'est que l'autre va mal. C'est très rarement que vous verrez un Olympique, enfin les deux Olympiques qui vont bien ensemble.
Oh, le moment où ils se bataillaient pour la première place, peut-être.
De l'époque récente et l'époque clownesque des deux clubs. Chacun a ses hauts, ses bas. Et l'année dernière, à l'OM, comme tu dis, ils ont fait plutôt bonne saison, globalement. Un peu décevante et frustrante, mais plutôt bonne saison. Lyon, je vous fais pas de dessin, c'était la clownerie toute la saison. Là, début de saison, Marseille, alors même si ça s'est mal passé avec le supporter, tout ça, le mercato de fou, Lyon qui au contraire n'arrive pas à recruter, et en gros Lyon joue le maintien, Marseille c'est bof, mais ouais, ça joue l'Europe.
Dit qu'ils avaient une super équipe.
Ouais, voilà, et ça joue l'Europe, le passe européenne.
Clairement.
Aujourd'hui, Lyon est sur une série de 3 victoires de suite, est en pleine forme, a un coach qui plaît, a un bel effectif,
et dans
une belle progression. Et Marseille ne fait que de perdre, n'a pas gagné contre un club professionnel en 2024, et aujourd'hui se retrouve à changer d'entraîneur et à employer Jean-Louis Gasset. Donc voilà, ma théorie, c'est là. C'est une théorie qui a un peu circulé sur les réseaux, mais qui pour moi, aujourd'hui, est plus que parlante.
Elle est viable, c'est clair.
Parce que voilà, à Lyon, on a l'impression que tout va bien en un clin d'œil, et puis à Marseille, tout s'est effondré sur le début d'année 2024. Ah bah, bref.
Je crois que c'est ça avec les gros clubs qu'on bat beaucoup. Il y a beaucoup d'enjeux sur leur dos, et bah, dès que tout va bien, bah, les médias les encensent, et dès que tout va mal, bah, les médias les pourrissent.
Exactement. Mais en tout cas, voilà, blague à part, ça reste quand même une situation compliquée pour l'Olympique de Marseille en ce moment. On va passer maintenant à Mbappé avec, donc, on l'a appris jeudi dernier, en fin d'après-midi, la bombe. Toujours pas officiel, mais en tout cas, il y a eu.
Ça n'a pas été démenti.
Déjà, ça n'a pas été démenti. Et puis, quand Mbappé veut démentir, il dément.
Oui.
Il laisse circuler ce qu'il veut, c'est laisser circuler. En tout cas, Kylian Mbappé qui a annoncé, en tout cas, à plusieurs médias ou alors via via le biais du PSG. Qu'en gros, il avait décidé de ne pas renouveler le contrat et de partir libre. On ne sait où, peut-être à la Casablanca, au Real Madrid, donc l'année prochaine. Voilà, donc il va partir gratuitement, potentiellement, donc comme on le disait, dans la capitale espagnole. Messieurs, c'est la fin d'un dossier interminable.
Oui.
En 2021, alors peut-être qu'on peut faire une rétrospective. Arrivée de Mbappé en 2017. Jusque-là, tout va bien. À l'époque, déjà courtisé par le Real Madrid, à son époque monégasque. Des saisons passent. Mbappé, qui est pas forcément décisif du côté de la Ligue des Champions en 2019, très mauvais match contre United. 2020, ça se passe un peu mieux. Le Fan Aid se passe bien pour lui, même s'il rate complètement sa finale. 2021, Il arrive très fort, il y a son triplé au camp de nous, des choses comme ça. Au mercato, puisque c'est ça qui nous intéresse, il y a cette offre à la dernière minute du Real qui propose 150 millions au PSG. Le PSG refuse, ne laisse pas partir Kylian Mbappé. Alors évidemment, à ce niveau-là du mercato, c'est un peu compliqué de laisser partir son meilleur joueur parce qu'on peut pas forcément le remplacer. Même si à l'époque, il y avait quand même Neymar et Messi qui étaient toujours là. Mbappé reste, mais c'est sa dernière année contrat. Donc en 2022, vous le savez, on va pas vous refaire l'histoire, mais il y a toute cette ce suspense littéral autour de la prolongation ou non de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va partir gratuitement au Real Madrid? Qu'est-ce que le PSG doit faire? Le PSG a réussi à le prolonger. On annonce 2025, donc potentiellement 3 ans. Il s'est avéré qu'au bout de quelques semaines, on apprend que c'est pas en fait 2025, c'est 2024, avec potentiellement une année en option, en sachant que, alors j'ai trouvé ça tout, un peu lunaire, parce que normalement c'est les clubs qui décident, mais c'est à Mbappé de décider s'il lèvera ou pas cette option d'un an supplémentaire. La réalité, c'est que on le saura bien plus tard, mais au bout de quelques semaines, il décide de rester sur un contrat de 2 ans et non pas 2025. Mbappé donc reste au PSG. Très rapidement, ça je trouve qu'on a tendance à l'oublier, mais sur cette année 2022-2023, beaucoup, beaucoup de polémiques générées par Kylian Mbappé. Il y a son vrai faux départ, je sais pas si vous vous souvenez, avant un match de Ligue des Champions, où tous les médias annoncent que Kylian Mbappé veut déjà partir du PSG. Potentiellement dès l'hiver, je sais pas si vous vous souvenez de ça, et que il met une semaine à démentir, voilà. Et au final, on avait appris que c'est parce que le PSG avait mis du temps à le payer, à payer son salaire. Son salaire qui d'ailleurs était à l'époque le plus gros de toute la planète foot, même de l'histoire, et qui était assez démesuré. On a appris évidemment que dans ce contrat-là, de façon officielle, officieuse, il y a eu de la part d'Mbappé des velléités également un peu de pouvoir dans le club, notamment sur les mercatos qui ont pu être réalisés, que notamment justement c'était au PSG de faire des bons mercatos pour que Kylian Mbappé reste, et que Kylian Mbappé a montré ouvertement qu'il n'était pas content des mercatos, etc. La polémique, je vous la fais courte, du pivot gang, du Kylian Saint-Germain, voilà, des choses comme ça. Et globalement, 2023, à l'été du même temps, on revient dans la crise, on revient dans la question de est-ce qu'il va reprolonger. On arrive avec pas une grève, mais du coup l'inverse, le PSG qui l'écarte du groupe pour aller au Japon.
Ah oui, c'est vrai.
Et justement, les Parisiens voulaient que Mbappé lève son option d'achat, son option d'année en plus, et parce qu'en fait il avait jusqu'à la fin de l'été pour signer jusqu'en 2025. Il ne le faisait pas, le PSG le met sur le côté, finalement le réintègre, ça se passe bien sur le terrain, et ils acceptent clairement que Mbappé parte, soit re-signe un contrat. Ouais. En gros, de se remettre dans les négociations, comme en 2022, la même situation, soit bon, on négocie un nouveau contrat, sauf que difficile de faire plus.
Je le voyais pas aussi.
Difficile de faire plus que ce qu'a déjà proposé le PSG. Nous arrivons donc aujourd'hui, la tendance était déjà depuis quelques semaines à l'arrivée de Mbappé au Real Madrid et surtout le départ donc du PSG, gratuitement en tout cas, puisque il est en fin de contrat avec le PSG. On fera pas l'histoire des histoires de primes. Puisque apparemment il y a des primes de fidélité très chères que Kylian Mbappé était censé toucher, qu'il ne va pas toucher, donc le club économiserait de l'argent. On va pas aller là-dessus, même si quand même le volet partir gratuit quand on est Kylian Mbappé peut être intéressant à développer. Le voilà donc là, on a appris jeudi dernier, plein de médias, tout le monde a eu la nouvelle comme quoi Kylian Mbappé allait s'en aller du Paris Saint-Germain. Alors si on est suivi, évidemment, tous les médias qui en ont parlé partout, notamment à n'importe qui, mais en tout cas on a eu donc cette nouvelle, voilà, qui a pas finalement fait l'effet d'une bombe comme en 2022. La prolongation avait été quand même quelque chose d'assez énorme.
Après, je pense que c'est arrivé à son terme, et puis je pense que tout le monde en avait un peu marre aussi.
Oui, voilà, c'est ça.
On était là en 2022. Ouais.
Alors, première question donc sur ce cas Mbappé. Je vais aller sur la question de la gestion du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que le PSG fait bien de se séparer de Mbappé de cette façon? Est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses qui auraient dû être mieux faites? Est-ce que les 2 ans ont valu le coup aussi? C'est la question qu'on peut se poser, même si la saison n'est pas terminée. Je vous laisse. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion du cas Mbappé sur les 2 dernières années?
De ce qui s'est passé, j'ai l'impression que Mbappé a, excusez-moi l'expression, a mis une bonne douille au PSG.
Ok.
C'est l'impression que j'ai eu qu'il a vraiment tiré les ficelles de ce qu'il voulait et qu'il en a fait ce qu'il voulait aussi, quoi. Il a eu ce qu'il voulait, beaucoup de ce qu'il voulait, mais ça montre bien, ça montre bien son état d'esprit et que il avait son idée en tête. Il l'a suivi et au final, il l'avait même dit dans une interview, le Real Madrid, c'est le club dans lequel il veut être depuis qu'il est tout petit.
Dans la lettre où il annonce qu'il signe au PSG, il y a un paragraphe, parce que c'était à l'époque de la finale des champions contre le Liverpool, il marque « Je serai votre premier supporter », donc en parlant du Real Madrid. Hein. « Merci à Florentino Pérez pour les négociations, j'adore le Real et je serai votre premier supporter contre Liverpool
voilà, ».
Ce qui est fou. Parce que tu es dans un club et tu supportes littéralement
beaucoup.
Oui, mais de l'annoncer comme ça. Quand tu es au PSG et que tu parles d'un concurrent normalement à la Ligue des Champions. Tu vois.
Pour moi, Mbappé s'est bien débrouillé, bien joué à lui, j'ai envie de dire. Mais le PSG a vachement mal géré l'ego du joueur, à mon avis.
Clément.
C'est pas des. Le PSG, ouais. Je sais. Je sais pas trop quoi dire, hormis que Mbappé, je parle sportivement, il a fait ce qu'il avait à faire au PSG. Après, il aurait peut-être pu revenir avec une Ligue des Champions, mais j'ai l'impression que le PSG, ça restera le PSG et je pense qu'il faut pas de stars dans cette équipe, tout simplement. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que ça va faire du bien au PSG que Mbappé parte et que Mbappé aille dans un club où justement où il y a eu des stars mais même peut-être plus grandes que Kylian Mbappé.
Bien sûr.
Ça va le faire redescendre sur terre peut-être un peu parce que là il était pris comme le dieu au PSG. Enfin vu comment il a été traité, je pense que il se sent intouchable et là d'aller au Real où c'est un club bien plus prestigieux, qui joue des objectifs plus importants. Bon, le PSG joue aussi la Ligue des Champions, mais ça a jamais été comme le Real qui... La Ligue des Champions, c'est vraiment leur... Parce qu'on parle que de ça. Quand on parle du Real, on parle de Ligue des Champions. Je pense que oui, Mbappé, ça va lui faire du bien sportivement. Après, extra-sportif, le PSG, comme je pense que je suis du même avis que Faustin, a mal géré. Et Mbappé... A pris toute l'oseille.
Ouais, toute l'oseille. Il doit plus rester grand chose. Je vous rejoins complètement. Pour moi, ça a été une gestion du Paris Saint-Germain assez catastrophique. En tout cas, le contrat. Le PSG a fait l'erreur de vouloir absolument garder Mbappé en 2022. Alors, ça parle notamment du fait qu'il voulait, l'avoir sous le maillot du PSG pendant la Coupe du Monde 2022. Et qu'ils ont fait du coup des pieds et des mains pour que ça soit comme ça. Moi effectivement je pense que il y a eu le salaire démesuré aujourd'hui, c'est l'économie du foot, c'est comme ça, je reviendrai pas dessus, mais au niveau du pouvoir dans le club, je trouve ça quand même moi c'est toujours qui m'a choqué pendant toutes ces 2 ans. Comment on peut donner du pouvoir limite qu'il soit directeur sportif puisqu'il y a vraiment énormément de décisions du club qui sont autour de Kylian Mbappé, qui dépendent de Kylian Mbappé et tout plein de choses en fait. On se rend pas compte, mais il a fait venir des proches à lui. Non, mais même au sein du club, proches à lui pour travailler dans le club.
Après,
on a eu des choses aussi au niveau de. Tu disais, il y a eu cette francisation cet été du vestiaire avec des potes à lui. Dembélé, Lucas Hernandez, Kolo Muani. On l'a fait venir aussi un petit jeune Barcola. Donc, on a l'impression que Kylian Mbappé tout le temps maîtrisait tout à sein du club et qu'à la fois on avait cette opposition entre les deux puisqu'il créait plein de polémiques tout le temps. Moi je trouve ça assez fou que voilà, et en plus donc c'était pas sain pour moi entre les deux, et en plus donc on donne du pouvoir à un joueur qui ne va rester que 2 ans. Donc en fait après qu'est-ce qui va se passer, ce sont des bons joueurs qu'il a fait venir ou ce sont souvent sûrement des gens compétents qu'il a fait venir au sein du club. Mais aujourd'hui, le pouvoir qu'il a eu pendant ces 2 ans est démesuré par rapport à la marque qu'il va laisser. Enfin, en tout cas, quand on fait un projet Mbappé, pour moi, c'est un projet qui doit rester sur le long terme.
Et là,
c'est 2 ans. Mmh. Et c'est-à-dire que même en 2000, enfin, un an après cette prolongation, on se dit, ah, ça y est, c'est fini. On nous rebâche des trucs avec Mbappé. Et donc, c'est ça qui est assez, assez dingue. Et pour moi, bon, voilà, après, Mbappé joue son jeu et il fait ce qu'il veut. Mais après, il a eu un comportement parfois de star. Et la question, pour moi, c'est un dilemme. Est-ce que le fautif, c'est Mbappé qui a demandé tout ça et qui a agi parfois pas forcément de la manière la plus cool avec le PSG, ou est-ce que c'est le PSG qui laisse faire? C'est la question qu'on peut se poser.
Ah, il y a un peu des deux. C'est un peu malsain de la part d'Mbappé d'agir comme ça. Mais aussi, le PSG aurait dû se rendre compte bien plus tôt qu'il se faisait mener en bateau, quoi.
Pour moi, le contrat, c'est une erreur.
Ouais, ça, c'est des belles promesses.
C'est une erreur d'aller l'avoir.
Il y avait aussi tellement de stars à gérer. Enfin, il n'y avait pas que Mbappé pendant un moment. Ouais. C'est ça le problème aussi, je pense. Ils ont pas pu se focaliser que sur lui parce qu'il y avait par exemple Neymar, mais après il y a l'arrivée de Messi.
Il y a un autre truc parce qu'on a parlé de l'arrivée des Français, l'arrivée de certains proches à lui dans le club.
Il y a eu le départ aussi.
Il y a eu les départs des Sud-Américains à foison. Di Maria, Paredes, Neymar, et on parle de ça en 2023. Mm. C'est parce que Mbappé voulait plus Neymar que Neymar est parti. Mm. Faut pas se voiler la face. Donc je pense que c'est assez lunaire.
Je pense que le PSG voulait faire de Mbappé sa star centrale, mais Mbappé ne voulait pas être la star du PSG. Enfin, il voulait être la star du PSG dans une certaine manière, mais pour lui, il a toujours le Real en tête, à mon avis aussi.
Moi,
je sais pas comment expliquer ça, mais...
Je pense que c'était très, très, ça donnait trop malsain entre les deux.
Le PSG a accordé trop d'importance à Kylian Mbappé, alors que Kylian Mbappé accordait peut-être pas autant d'importance.
En fait,
PSG.
À chaque fois, il voulait plus. Il voulait savoir où il jouait. Tu vois, le
pivot. Pour battre des records, je pense.
Il voulait tout le temps tout maîtriser.
Ouais.
Et le PSG, à un moment, dit stop. Et puis, en fait, lui, il est pas content. Bref, ça. Bon, on est débarrassé. Non, je vais quand même pas dire ça. C'est notre plus grande star française qui part de la Ligue 1.
Ouais.
On a fait assez longtemps dessus, même si on aurait pu encore dire pas mal de choses. Le Real Madrid va avoir une sacrée équipe, dans les prochaines années, on va pas se mentir.
Il est pas sûr qu'il aille au Real.
Pas sûr.
Aller à Copenhague.
Et pas à Copenhague. Le transfert de l'année. Même Liverpool. Même des joueurs à Liverpool n'y croient même pas.
Donc,
ça sent le Real, très clairement, on verra ça, mais on a hâte de suivre tout ça quand même, ça peut être intéressant à suivre. Voilà pour le football, c'était assez conséquent, faut toujours un petit peu parler de l'actu parce que c'est ce qui prend toute la place évidemment, donc on est obligé d'en parler. Faustin, on va parler de basket avec le All-Star Game cette année, le All-Star Game de NBA. Qui se déroulait assez classiquement, peut-être un peu trop calmement, et pas mal de choses. Quand même.
Ouais, c'était
beaucoup de points notamment.
Oui, et puis c'était un programme très chargé qui a commencé dès vendredi pour le Rising Star Challenge avec le premier match opposant la team de Pau Gasol dans laquelle se trouvaient notamment Wemby et Bilal Koulibaly ainsi que deux rookies en grande forme à la team Detlef composée uniquement de joueurs de G League. La G League c'est en gros la Ligue 2 de la NBA et c'est étonnamment la team de G League qui s'est imposée face à une équipe de Pau Gasol remplie de jeunes joueurs qui se sont pris pour des All-Stars et n'ont pas défendu, ont joué un peu n'importe comment et ont donc perdu ce match. Ensuite, la finale opposait la team la team de Jalen, composée notamment de Chet Holmgren, le rival de Wemby dans la course au rookie de l'année. Et c'est la team de Jalen qui a remporté ce Rising Star Challenge. Le samedi, on a ensuite évidemment eu le droit à tous les concours, avec pour commencer le Skills Challenge auquel Victor Wembanyama participait, aux côtés de Paolo Banchero et Anthony Edwards. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas gagné une seule manche, peut-être dû au fait que Anthony Edwards, pour s'amuser, avait décidé de shooter tous ses tirs de la main gauche. Il nous a fait des belles tranches, c'était assez beau à voir. Mais du coup, ça fait pas gagner des matchs, évidemment, enfin des slaloms, parce que ce concours est génial. On fait faire des slaloms au jour NBA. C'est vraiment un exercice intéressant.
On sent ton dégoût dans ce exercice.
C'est pas le Skills Challenge. Faudra retravailler ça, à mon avis. Sinon, c'est la team des Pacers qui ont remporté le Skills Challenge composé de Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et Miles Turner. Le concours suivant, c'était le concours à 3 points. C'est Damien Lillard qui s'est imposé et qui est devenu champion pour la 2e fois d'affilée. avec un score de 26 points. Dans la foulée, on a eu le duel opposant Sabrina Ionescu à Stephen Curry. C'était une première, cet événement. Et c'est le chef Curry qui s'est imposé, toujours le meilleur shooter de tous les temps, en scorant lui 29 points. Et tandis que Sabrina Ionescu a fini avec 26 points, elle aurait gagné le concours masculin, sachant qu'elle a tiré donc avec des ballons de WNBA qui sont un petit peu plus petits, un peu plus légers, mais aux lignes de NBA, pas aux lignes de WNBA, donc c'est très respectable. Et 26 points, c'est évidemment un énorme score. Pour finir la journée du samedi, on a eu le concours de dunk qui, a une année de plus, était assez décevant, avec des dunks pas forcément éblouissants. Je pense notamment à celui qui a permis à Jaylen Brown d'aller en finale, où il saute au-dessus de l'influenceur américain Kai Cenat, en recevant un alley-oop de son coéquipier Jason Tatum. Il dunk la balle parfaitement normalement à une main, sachant que Kai Cenat était assis, donc pas très haut. Et une fois après avoir dunké, il se cache les yeux. Mais après avoir dunké.
Ah oui.
Voilà, donc apparemment les juges ont adoré, ils m'ont mis de très bonnes notes, comme à tous ces dunks qui n'étaient pas dingues.
Le jugement de Faustin.
Non, franchement, les commentaires.
Oui,
non,
je te crois.
C'était assez clownesque, ce concours de dunk. Alors qu'on a eu un magnifique 360 Rider finition demain de Jakob Toppin, qui a reçu une moins bonne note que le dunk que je viens de citer de Jaylen Brown. Seul Mac McClung est sorti du lot et a logiquement remporté son concours de dunk. Donc, et lui aussi, c'est du coup la deuxième fois d'affilée qu'il remporte le concours de dunk. C'est la première fois dans l'histoire. Non, c'est la deuxième fois dans l'histoire, pardon, que deux joueurs remportent deux concours d'affilée. Voilà pour les concours. Ensuite, le main event, j'ai envie de dire, de ce week-end, c'était le dimanche, le match des étoiles, qui opposait donc pour la première fois depuis 4 ans la team Est à la team Ouest. Et c'est la team Est qui l'a remporté sur le score de 211 à 186. C'est la première fois qu'une équipe passe les 200 points en NBA. Voilà, dû à 168 tirs à 3 points pris durant le match. C'est Damien Lillard qui finit MVP de ce match avec ses 39 points et qui a notamment mis deux tirs du milieu de terrain comme si c'était des tirs parfaitement normaux. C'était assez hallucinant. Et haute performance, on a eu les 50 points de Karl-Anthony Towns, qui n'a pas fini MVP parce que il a perdu le match, il était dans la team West malheureusement pour lui. Sinon, il l'aurait sans doute remporté. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un match assez décevant. Avec, on a l'habitude au All-Star Game de voir une défense très très relâchée, mais là c'était vraiment abusé. 211 à 186, on n'avait jamais eu un score pareil. Et vraiment là c'était pas beau à voir. J'ai envie de dire même heureusement qu'il y a eu des belles actions, mais je trouve aussi que le spectacle était un peu moins au rendez-vous. Où le principal du jeu était du shoot à 3 points, alors que souvent ce qu'on aime bien voir dans ce genre de match, c'est des gros dunks, des gros alley-oops, des belles passes, des gros contres. Et là, on a eu un peu moins ça, donc j'ai trouvé ça un peu décevant sur All-Star Game.
Est-ce que d'ailleurs le All-Star Game n'est pas un peu plus décevant chaque année ?
Si, tout à fait, il perd de son attractivité. C'est un peu la vitrine de la NBA qui essaie de se développer de plus en plus. Et ça montre du spectacle, hein, c'est clair. Mais pour les fans de NBA qui sont quand même assez nombreux, c'est toujours de plus en plus décevant.
Ouais. Bon, on espère que ça va évoluer dans les prochaines années, peut-être.
On espère, ouais.
Quelques changements dans la structure du format ou des choses comme ça. Bon, merci Faustin pour ce point All-Star Game. On va revenir sur deux autres actualités, notamment le biathlon. Et oui, on est trop fort en biathlon. Voilà ce qu'on peut vous dire pour commencer. C'était les championnats du monde de Nové Mesto en République tchèque. C'était donc sur les derniers jours, hein, notamment la dernière semaine. On est sur 6 médailles françaises. Et oui.
Ah bah plus.
6 médailles d'or françaises, pardon. Oui. 6 titres mondiaux français avec 2 victoires individuelles pour Julia Simon en 10 km poursuite et en 7,5 km sprint. Également la médaille d'or pour Justine Brezaz-Boucher en 12,5 km sur la Mastart. Et on s'impose quasiment sur tous les relais avec le relais simple mixte, le relais femme et le relais mixte. Voilà, donc 6 titres mondiaux. C'est quand même assez impressionnant hein, ce qu'ont été capables de réaliser tous nos Français, mais notamment nos Françaises, qui ont été très performantes avec ce fameux triplé, je crois, quadruplé même.
Quadruplé, ouais.
C'était sur
le sprint.
Sur le sprint, ouais. Très bien. Au niveau des autres médailles, donc on a une médaille d'argent et 6 médailles de bronze, et on termine à la première place au classement des médailles devant la Norvège, qui est le principal concurrent.
Ouais, et pour le coup, on a battu notre record de médailles sur l'entièreté des championnats du monde.
Qui datait de 2016 à Oslo.
C'est ça.
Avec Martin Fourcade notamment, qui avait été très performant. Oui. Voilà pour le biathlon. On va maintenant un peu parler de marathon avec le record de France qui a été battu ce week-end par Morad Hamdouni, pardon, qui s'est adjugé donc ce fameux record de France qui était le sien à Séville lors donc de ce marathon en Espagne. Il a terminé en 2h03:47. Voilà, qui élimine, enfin qui donc bat son record du monde, pardon, qui datait donc de 2022 à Paris, qu'il avait réalisé en 2h05:22. Voilà pour le marathon. Et à noter, je sais pas si vous en avez parlé la semaine dernière, donc peut-être en dire deux mots, le décès du recordman actuel du monde, Kiptoum, qui nous a quitté le 12 février dernier. Et des hommages nationaux vont lui être rendus, notamment du côté du Kenya. Voilà un petit peu pour les actualités. On peut également en parler de ce qui va se passer ce soir. Au niveau de la Ligue des Champions, on a deux matchs qui nous intéresse, avec l'Inter Milan qui reçoit l'Atlético de Madrid, avec trois Français au total qui seront titulaires sur le terrain. Côté Inter, Benjamin Pavard est aligné en défense centrale, Marcus Thuram en pointe de l'attaque avec Lautaro Martinez, et en face c'est Antoine Griezmann qui est aligné aussi en attaque avec Marcos Llorente. Et puis pour l'autre huitième de finale aller, on a le PSV Eindhoven qui reçoit le Borussia Dortmund. Et du côté du PSV Eindhoven, on retrouve notamment Boscagli, le Français, en défense centrale.
Et d'ailleurs, peut-être une dernière information locale. Il y a Amandine Brossier qui a été sacrée championne de France en salle du 400 mètres. Voilà.
Très bien,
merci. Et qui a presque fait les minima pour les JO.
Ouais, c'est ça, qui s'approchait et qui croit qu'elle a battu son record de l'année, il me semble.
Non, parce qu'elle a battu son record cette année, mais oui, elle était tout près. Elle était à 20 millième.
Ok, donc, voilà. Très bien, merci.
Et pour terminer, peut-être les Ducs d'Angers qui viennent de marquer, enfin qui gagnent 1-0 grâce à un but à la 5e minute.
Juste avant la conclusion de cette émission, c'est parfait. On vous remercie d'avoir été avec nous dans cette émission de Génération Sport. On vous rappelle le concours sur les réseaux. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour participer et gagner des places pour le match entre l'UFAB et Charnay ce vendredi à 20h à Jean-Bouin. Allez sur nos réseaux Twitter, Facebook et Insta et on vous laisse participer pour gagner des places. On vous dit à la semaine prochaine puisqu'on recevra donc l'UFAB et dans deux semaines, a priori, on devrait recevoir les Yankees d'Angers qui font leur grand retour dans notre émission. On vous laisse avec le générique. Tout de suite après, c'est Imaginaire qui va prendre la suite. Et on vous souhaite une bonne soirée sur Radio G.
Le jour où on m'a dit...